originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadour Boudali.
Bonjour à tous.
Guillermo Gouiz, Daniel Morin, Albert Algou, Charles nous accompagne au piano. Et notre invité, Monsieur Pest. Folie, folie.
Nagui est venu avec ses enfants.
Hey. Et d'ailleurs, ils sont pas en classe là ?
Non, bah non.
Il y a pas école à 11h.
Non, pas.
Ah, bon
pas
ah oui, il y a pas école.
Le vendredi, le vendredi.
En tout cas, pas Marly, pas Marly.
11h07, tranquille. Donc ils sont de Marly. Toi, tu connais bien Marly ?
Ah oui, très très bien. Mais il y a deux Marly, mais eux, ils viennent du bon Marly.
Eh oui.
Oh, c'est bon. Faut pas dire lequel pour pas vexer les autres.
Exactement.
Père Albert, savez-vous pourquoi Pef est notre invité aujourd'hui?
Mais bien sûr, Nangui. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année. Et s'il est un souhait que je formule plus particulièrement, c'est que vos collaborateurs fassent enfin preuve de l'originalité dont ils se targuent avec un peu trop de fatuité. Bon, mais revenons à Pierre-François Martin Laval. Bonjour, Pierre-François. Bonjour. Parce qu'il était. Alors, pour, il est là parce qu'il était disponible un vendredi. Et puis,
ça aide.
Et on l'a trouvé erré dans les couloirs à la recherche d'Augustin Trapenard, qui malheureusement, pour lui, il n'était pas là car il enregistre ses émissions très longtemps à l'avance. Mais ça, c'est une autre histoire.
Nous, c'est pas enregistré. Évidemment.
Et accessoirement, Pierre-François Martin Laval vient nous parler de Un jour, mon prince. Un film au charme à la Jacques Demy dont je vais vous donner le pchit. Pas Jacques Demy, le film. Voilà. Voilà bientôt 100 ans que la Belle au bois dormant est plongée dans un profond sommeil. Or, durant tout ce temps, aucun prince n'a réussi à la réveiller d'un baiser. Mais si aucun prétendant sérieux ne se présente, le royaume des fées risque de disparaître à jamais. La reine Titiana, incarnée par Catherine Jacob, excellente, envoie donc deux fées québécoises, Mélusine et Blondine, elle les envoie à Paris, Blondine agitée de la baguette et portée sur la binouse.
C'est vrai.
Faut quand même le dire. Leur mission, trouver l'homme idéal capable de réveiller la Belle au bois dormant. Mais transportée au XXIe siècle, les deux fées vont réaliser que leur tâche est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et Pierre-François dans tout ça? Alors, il est un assistant de la reine Titiana et se fait appeler le corbeau, hein, c'est ça? À cause de sa cape et de sa coiffe emplumée. À ce propos, Nagui, durant la projection, comme je vous le faisais remarquer, que Pierre-François, dans ce film, avait les yeux d'un jaune corbac, vous m'avez dit, mais non, Père Albert, c'est leur couleur naturelle. Cette couleur jaune pastis est révélatrice de l'état du foie de Pef, qui aurait mieux fait de s'appeler Paf. J'ai apprécié la blague. Bref, je me suis laissé prendre par ce conte charmant et je me suis vite ressaisi en me disant que jamais je ne pourrais le projeter au ciné-club que j'anime dans ma camionnette bâchée cuir clouté noir. En effet, les pratiques magiques de ces deux fait s'apparente aux sortilèges païens, aux maléfices et relève de la sorcellerie. Ce ne sont pas des exemples à donner à nos jeunes comme ceux de Marly qui ont déjà assez de mal à gober ce que je leur raconte en leur disant que Jésus, mon maître, marchait sur l'eau ou transformait l'eau en Beaujolais. Pierre-François, encourageant ces deux boules de vis, il est probable que Satan l'habite. Et je vais donc devoir l'exorciser. Terogamus, Immundus, Petrus, Franciscus, Martinus, Lavalus, Corbacus, Vaderetto, oiseau de Satan, quitte cette créature, retire-toi et réponds-moi. Ça marche pas en anglais. Je vais donc être obligé de me sacrifier. Démon, quitte la chair de Pef et prends possession de mon corps impur. Oui, prends-moi, vas-y, oui, oui. Non, non, oui, oui, oui. Entre-moi, take me, come into me. Vas-y, venge-toi, allume un feu, danse autour et appelle-moi Folcoche. Souille-moi, ravage-moi, venge-moi. Ça y est, là, ça marche. Je me suis sacrifié, donc Pierre-François est délivré. Nagui, vous pouvez continuer.
Merci, Pierre-Albert. Merci beaucoup.
France Inter, Nagui et la bande originale.
Le moment de solitude quand tu tournes vers les élèves.
Bah, c'est qu'il y a des vannes qui passent différemment quand des oreilles d'un âge différent.
Ça fait partie des formules d'exorcisme.
Voilà, c'est ça. Donc parlons de ce film qui est en salle le 11 janvier prochain, qui s'appelle Un jour, mon prince. Formule tellement utilisée qu'on se dit mais plus jamais personne ne pourra la sortir. Et pourtant, le film viendra le 11 janvier, réalisé et interprété par Flavia Coste, parce qu'elle est devant et derrière.
Oui, c'est vrai.
La caméra,
comme vous,
avec la caméra, avec Sarah-Jeanne Labrosse et Mylène Saint-Sauveur, un casting donc québécois.
Oui.
Parce que co-production,
oui, que... mais c'est surtout parce qu'il y a une grande réunion.
Très bien, il n'y a pas de débat sur
le film. Il y a un congrès des fées international qui est organisé par Catherine et moi, Titania et moi encore beau. Et il faut
Catherine,
envoyer,
Jacob et vous.
Voilà, ouais. Et il faut envoyer des fées dans la ville la plus romantique du monde pour trouver le bon prince. Ouais. Et donc, elle a choisi Paris et on a envoyé des fées francophones parce que les Chinoises, ça le faisait pas. Ça faisait un film bizarre, quoi.
Voilà. C'est honteux.
C'est un film raciste.
Ouais, c'est ça, on est d'accord. Ouais. Comment oser redébarquer en 2017 avec un film conte de fées?
Bah parce que
avec des fées qui débarquent avec une baguette magique dans Paris.
Bah avant tout, c'est
et qui essayent d'être swag.
C'est parce que c'est très drôle de confronter des personnages de fables, de contes au monde réel. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire de.
Elle s'étonne du monde dans lequel elle débarque
et le
monde qui les voit faire des tours de magie ou transformer
des caïras
en crapauds. Ça...
Voilà, et puis dans un premier temps, personne ne croit que ce sont des vraies fées. Les gens se demandent qu'est-ce qu'elles foutent habillées comme ça. Et puis elle découvre ce monde plus ou moins affreux avec toutes les perversités qu'on peut trouver dans.
C'est ça, parce que les fées qui sont très mignonnes et dont une agit de la baguette, pour reprendre l'expression de Père Albert, à cette menace de garder sa virginité sous peine de ne plus avoir la vie éternelle.
Et voilà. Donc justement, c'est un cruel dilemme.
Ouais. Et ces yeux d'un jaune corbeau sont des lentilles de contact que vous portiez.
Non, j'ai bu. Non, mais c'est vrai. Non, mais Nagui, en plus, vous avez visé. En fait, bah, vous savez, je suis de Marseille. Ça s'entend pas toujours, mais donc j'ai commencé par boire un Ricard par jour, puis une bouteille. Ça venait pas. Et puis un jour,
vous avez mis directement dans l'œil. Ouais. C'est ça. Un jour, mon prince qui donc détourne les codes des contes de Perrault, je me tourne vers toi, ma douce Leïla.
Qui n'a jamais cru aux contes de fées.
Ça va jamais?
Non. Ça n'a jamais été mon truc, je crois. Mais en tout cas, les contes sur l'amour éternel. Et on se rend compte que ces deux fées, elles sont confrontées au quotidien à Paris et que les princes charmants, ça ne court pas les rues.
Voilà, c'est ça. Ça court vraiment pas les rues, ouais.
Et que les critères aussi sont quand même un peu particuliers. Hein. Il faut savoir monter à cheval.
Il doit être blond.
Ouais.
Le prince charmant doit être blond, savoir monter à cheval.
Ne pas être marié, tant qu'à faire. Voilà,
sinon, c'est un SS.
Finalement, la représentation de l'homme idéal, elle est quand même très très stéréotypée. Finalement, ce qui est transmis, ce qui est véhiculé.
Ce qui est assez drôle, c'est de voir aussi La Belle au Bois Dormant, de l'entendre commenter les éventuels
les
postulants qui viennent.
Oui, parce
pour
que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on en trouve quand même pas mal.
C'est
ils font la queue, ouais. Voilà, pour embrasser La Belle.
C'est pas que vous en trouviez beaucoup,
les pompiers.
C'est que la fée est agitée de la baguette, donc, et qu'elle envoie par dizaines et par centaines.
Ouais, elle en
parce
envoie
que c'est
un
une
peu
course
trop.
Contre la montre aussi.
Ouais. Elle envoie même des abbés.
Père
Albert.
Elle a bien raison.
Voilà. Il faut que tout ça arrive avant minuit, c'est-à-dire au bout des 100 ans.
C'est la grande panique. On va tous disparaître, bien sûr.
Parce que voilà, la menace est là. Ouais. Si
d'ailleurs,
la Belle au Bois Dormant n'est pas réveillée par un prince charmant, tout le monde disparaît, y compris le petit poussé.
Y compris le petit poussé. C'est votre réplique qui est géniale. Ça veut dire qu'on verra plus le petit poussé.
Je le dis à moitié en larmes.
Elle est géniale. Ouais,
ça m'avait bien fait rire de jouer ce passage.
Ça marche bien.
Avec Jean-Luc Couchard, qui est un petit mais grand acteur ouais. Belge.
Qui incarne le conteur, ouais. Comme on l'avait vu dans Dickeneck notamment, ouais. Ou dans tous ces films assez géniaux.
Flavia Coste, c'est son premier long métrage.
Premier, ouais. Ouais.
Comment le projet vous est tombé dans les mains?
Je dis la vérité ou
c'est votre agent qui vous a dit tiens j'ai un truc avec
non,
du blé.
Non, j'ai couché parce qu'il faut arrêter de dire que ce sont les réalisateurs qui couchent avec leurs actrices. Il y a aussi
des acteurs
non, c'est
qui,
pas vrai,
qui
c'est
couchent
pas
vrai. Qui
couchent
avec
moi tout ça.
Qui couchent avec les réalisateurs.
Non mais la réalisatrice m'a fait parvenir le scénario par son producteur Antoine de Clermont-Tonnerre qui avait produit King Guillaume, mon deuxième film.
Ouais.
Donc ça a un peu accéléré les choses et moi j'ai flashé sur. Moi non plus, je croyais pas trop aux contes de fées avant d'avoir lu.
Ah, c'était un peu quand même votre truc. Enfin, les Robins avaient commencé par détourner Robin des Bois.
Oui, et puis c'est ce décalage qui me fait rire dans le film, dans le scénario et puis dans le film du monde.
C'est un peu comme les Monty Python, c'est voilà. Musée et Chevalier à table ronde.
Exactement. Ronde, ça m'a fait tout de suite rire et puis surtout qu'on me propose un corbeau, quoi. C'est la classe. Ça m'était jamais arrivé. Je pense pas que
c'est un rôle français, ça, en plus.
Ouais. C'était un corbeau black, quand même, parce que vous parlez des yeux, mais bon.
Ah, c'est vrai. Oui, les yeux sont jaunes, le corbeau, lui, est bien noir, oui. Les deux fées étant Blondine et Mélusine, interprétées par Sarah-Jeanne Labrosse, pardon, et Mylène Saint-Sauveur. Lorsqu'on annonçait la venue de Pev, vos oreilles ont sifflé, Leïla.
Et ah, oui, et Pev, immédiatement, quand je pense à vous, je pense bien entendu au Robin des Bois, mais on va avoir l'occasion d'en parler plus tard. À Prof aussi, mais moins connu.
Prof 1 ou Prof 2 d'ailleurs
Prof bah, demandez aux gamins.
Ah, c'est vrai.
Prof 1 ou Prof 2
Pev, vous le connaissez comment? Les deux. Ah bah voilà, carton plein.
J'ai jamais eu autant de fans de ma vie.
Ouais. Et je ne sais pas si vous savez, jeunes gens, assis derrière moi, c'est que...
Ils ont bien aimé que tu les appelles comme ça.
Oui, hein, mais j'ai appelé mes élèves jeunes gens, parce que c'est je trouve ça élégant. C'est que la voix de Pef, vous devez la connaître aussi si vous avez vu un dessin animé.
Alors il faut choisir où tu regardes les élèves ou tu parles dans le micro.
Ouais, je sais pas, j'essaie de faire les deux.
Mais parle avec ton oreille alors.
C'est le dessin animé Ratatouille.
Je le sens pas. Je le sens pas du tout, du tout, du tout.
Et il en ratatouille.
Se réveiller.
J'ai déjà fait ça des millions de fois. Dès qu'elle zappe sur télécuisine, boum, et elle se réveille plus.
Tu es déjà venu ici des millions de fois?
Tu vas voir, avec du safran, ce sera parfait. Gusto ne jure que par le safran.
Ah, très bien. Et c'est qui, Gusto?
Le plus grand chef du monde. Rien que ça. Il a écrit ce livre de recettes.
Attends, vous incarnez le rat Émile, le frère.
Le frère, ouais.
Le frère du cuisinier, voilà, très investi.
Ouais, parce que j'arrivais pas au début à faire le personnage, on est dirigé là par une coach et puis elle m'a filé des gâteaux et puis je me suis mis à manger des gâteaux vraiment comme voilà comme dans le film à manger des saloperies et puis c'est venu, le personnage est venu.
Et comment vous a proposé cette voix là de Ratatouille? Est-ce que c'est une première je crois en termes de, vous avez fait deux doublages ou
j'ai fait la prophétie des grenouilles aussi. Oui. J'ai fait le magasin des suicides de Lecomte. Et puis j'en oublie un.
C'est un exercice totalement différent de ne jouer qu'avec sa voix et son corps.
Et surtout, c'est un exercice très différent quand on participe au film américain parce que le personnage a déjà été créé, donc on est obligé de se mettre dans les rails.
On doit imiter celui qui double la voix américaine.
En tout cas, imiter son rythme. Après, on est assez libre quand même. On est assez libre d'y mettre sa personnalité, ou un personnage qu'on compose. Mais on est dans des rails. Alors que dans La Prophétie des Grenouilles, qui est une création française, j'étais parti dans la région de Mâcon, si mes souvenirs sont bons. Et là, je propose.
Au niveau gastro, vous êtes bien. Hein.
Oui, c'était. Et là, je propose quelque chose, et eux, ils font les dessins sur la voix.
C'est l'inverse.
Ouais. C'est vous qui intimez le rythme.
Et qui faisait la voix du frère de Ratatouille aux États-Unis?
Prince Stunst.
Ok, il se fout de moi.
Moi non plus, je me souviens plus, j'ai regardé hier.
Ou John Snest.
Ah oui, c'est lui, il était vachement bien d'ailleurs.
Il était bien.
Vous étiez dans le même rythme.
Et quand je pense à vous, je pense aussi forcément à cette histoire paternelle qui vous lie à une grande figure française internationalement reconnue.
Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir.
Qu'est-ce qu'on entend?
Calypso. Tu vas pas acheter ça?
Ah bah c'est déjà fait.
Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser.
C'est un extrait de l'Odyssée de Jérôme Salle qui revient donc sur l'histoire du commandant Cousteau. Et votre père était médecin à bord de la Calypso.
Ouais, c'était le premier toubib recruté par... comme dans le film le raconte très bien en fait. Enfin, il parle pas de mon père, mais il parle du casting qu'il a fait. Et mon père m'a toujours raconté, ça s'était passé comme ça. Et
il recrute comme ça sur le port, il dit tiens, toi tu viens avec moi.
Cousteau avait rencontré mon père, il lui avait parlé de la mer pendant des heures en lui disant que le lundi il se passait rien, que le mardi il se passait rien, que c'était long. Et puis d'un coup, le vendredi, on voyait une baleine. Et puis ils se sont liés d'amitié, surtout avec la bergère, avec Madame Cousteau. Et tant et si bien que mon père a fait tous les premiers voyages et par la suite a envoyé des médecins à sa place. Et le film est très bon, j'ai beaucoup aimé le film.
Je me demandais voilà votre regard, parce que vous connaissez l'histoire particulièrement
moi,
bien.
J'aimais beaucoup la bergère, donc on l'appelait comme ça, Simone Cousteau. Mm-hmm. Et on a été fascinés en voyant ce qu'Audrey Tautou a fait, parce que vraiment il y avait des sacrées ressemblances.
Ouais. Ouais. Et Lambert Wilson dans le rôle du commandant Cousteau.
C'était troublant, très troublant. Non mais moi j'ai adoré ce film. Après il montre un côté un peu noir.
Le film a bien marché en plus.
Oui. Il montre un côté un peu noir. Il montre il montre son voilà, tout ce qu'on ne sait pas, oui, bien sûr.
Et, femmes, ouais. Et c'est l'intérêt aussi de sûr. Découvrir
Pourquoi
la figure autrement.
C'est un salopard
autrement. Non,
c'est un homme.
Il avait des amours contrariés parfois, et puis il a pris conscience tardivement de l'écologie aussi.
Oui,
il en a pris conscience.
Et c'est Pierre Niney qui est génial dans le film, qui a une super gueule, qui interprète un de ses fils, qui justement le met sur cette voie de l'écologie.
PEF est notre invité, donc il participe aux côtés de Catherine Jacob. Ça c'est parce que il faut toujours donner les deux noms les plus connus, mais il faut pas minimiser le mérite de Sarah-Jeanne Labrosse et de Mylène Saint-Sauveur, entre autres. Donc vous participez à ce film qui s'appelle Un jour mon prince, le premier long métrage réalisé et interprété aussi par Flavia Coste, qui sortira ce mercredi 11 janvier. Cadeau de Noël à retardement, cadeau de Noël de Ed Sheeran à ses fans. Il débarque avec carrément deux nouveautés, deux singles, et on en a choisi un des deux. Il y a Castle on the Hill et également Shape of You, et on vous propose de découvrir sur France Inter le nouveau Ed Sheeran, Shape of You, et on aime déjà.
The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the
Shape of You.
C'était Ed Sheeran avec ce titre Shape of You. Qu'est-ce que c'est bien, de toute façon tout ce qu'il fait c'est bien. Voilà. Et puis c'est un mec bien.
Il a du talent.
Ed Sheeran, il faut juste le préciser, le rappeler.
Vous aimez quoi, on l'embrasse.
Vous aimez quoi comme musique, vous, Pep?
Le funk. C'est Prince qui m'a mis au funk, enfin il le sait pas. Hein,
De toute façon, ça l'aurait pas tué. Hein.
Ouais, voilà, okay, j'ai pas d'humour là-dessus. Ça, j'ai aucun humour. Non, moi,
C'est vrai, vous avez pleuré le jour de la mort de Prince?
Prince, j'allais le voir partout où je pouvais aller le voir. J'étais allé le voir à Montreux.
Ouais, moi aussi.
Ah, voilà, bah, c'est ça.
C'était vous, tous les deux.
C'était nous.
À Paris, au Zénith, à Londres. Enfin, j'étais fou de lui. De James Brown aussi, mais bon.
Bah, on va l'écouter dans quelques minutes, puisqu'on va parler aussi de votre bande originale, de votre vie, mais votre d'abord, voici non. L'humeur si, ah non. De Guillermo Ruiz. Hey.
Bonjour les amis. Ça va, Lila. Bonjour les amis.
Salut.
Alors évidemment, période oblige, je présente tous mes vœux de bonheur à l'équipe. Et justement, en parlant d'hypocrisie, vous avez vu qu'au 1er janvier 2017, le paquet de cigarettes neutres a été généralisé.
Ah,
vous avez
c'est
vu
magnifique.
Ça paquet sur lequel, je le rappelle, les logos et couleurs des marques n'apparaissent plus. À la place, il y a juste une chouette photo des dents et des poumons de Serge Gainsbourg. Hein, période je vais et je viens entre les allées de ton hôpital. Alors, avec écrit « Fumer tue » ou « Fumer provoque le cancer » en suffisamment grand...
Non, « Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 voilà, », comme ça.
Et en plus, Nagui a un paquet de clopes dans les mains. Absolument.
Celui de Daniel, oui, c'est ça, parce que moi, j'aime pas ça.
En suffisamment grand, tout ça est écrit, en suffisamment grand pour que même les fumeurs presbytes puissent avoir aussi droit à leur cauchemar, ce qui est merci pour eux, c'est quand même plutôt cool. Alors j'espère que ce sera efficace. Comme le disait très justement mon pote Alexis Cabaret, le jour où sur les paquets il y aura écrit fumer en roue, là on verra s'il y a encore des volontaires. Elle est incroyable cette histoire de paquet neutre quand même. En soi, moi je m'en fous, moi je fume pas. Mon père il m'a dégoûté à vie quand j'étais petit, il fumait un paquet par soir à 1,5 mètre de moi. Hein, c'est pas qu'il m'aimait pas en tant qu'enfant, je crois juste qu'il était cancéroceptique. Tabagisme passif, c'était comme le snowboard et les aubergines, c'était pas son truc quoi. C'est juste. Et je lui en veux pas. Il a commencé la clope à l'époque où c'était encore conseillé par les gynécos quand tu voulais avoir une belle grossesse. Hein, c'était une autre génération. Si tu fumais pas tes 5 cigarettes par jour avant la puberté, t'étais considéré comme une lopette. Pas vrai, Maréchal?
Affirmatif,
on est bien d'accord. Du coup, j'ai jamais fumé, je pars du principe.
Il est bien ce jeune.
J'ai jamais fumé, je pars du principe que si je dois prendre une drogue qui me coûte cher, qui me détruit la santé et qui me donne une haleine de vieux divan, il faut au moins que ça me mette minable, quoi, vraiment. Et je dis pas uniquement ça pour défendre l'alcool, même si je comprenais toujours mieux les poivreaux que les fumeurs, honnêtement. Et je dis pas ça uniquement pour défendre Daniel Morin,
qui fait les deux,
qui, avec la détermination qu'on lui connaît, parvient à combiner merveilleusement les deux tards. Merci, bravo, Nicolas Van. Bravo, Daniel. Donc en soi, je m'en fous, chacun sa vie, chacun ses vices. Ici, la question, c'est qu'avec le paquet neutre, l'État laisse dans le commerce un produit qui a été complètement vidé de tout aspect marketing pour ne laisser qu'un seul argument visible de vente. Ceci va te tuer. Mais c'est 6,50€ quand même. Allez, bonne agonie, quoi, vraiment. C'est vrai, il y a des guerres pour le pétrole qui sont moins cyniques. Je veux dire, il y a des compliments que j'ai fait à Nagui qui sont moins hypocrites. Je vois pas ce qu'on peut faire de pire après, à part floquer les t-shirts Nike avec les photos des gosses qui les ont cousus. Vraiment. Et un bon vieux. J'espère que ce t-shirt vous plaira, signé Chang Li, 8 ans, quoi. Je sais pas. Dans l'univers féerique du commerce.
Non. Ouais,
c'est vrai. Dans l'univers féerique du commerce, normalement, il y a un accord tacite producteur-consommateur. Toi, tu me montres pas la crasse que tu fais en coulisses. Et moi, je fais semblant que j'étais pas au courant. Tout le monde y retrouve son compte. Voilà, si j'achète une prune, j'ai pas envie qu'il y ait écrit dessus, ça va te donner la chiasse. Merci, je sais, quoi. Je sais. Si tu dois me le dire, dis-moi aussi que la chair est juteuse, sinon retire ton machin du rayon. Même sur le, c'est vrai. Même sur le Roundup de Monsanto, il y a des couleurs vives. On te vend encore un peu de rêve, ça reste humain, quoi. Mais là, non, avec les cigarettes, il n'y a plus aucun élément positif. On t'écrit juste fumez-tu, point barre. Alors, ne me le vends pas, quoi. Je sais pas, je veux dire, quand on s'est rendu compte que l'amiante, au mieux, ça donnait la coupe de Pascal Obispo, au pire, le Noël 2016 de George Michael, bah, on l'a retiré du commerce, quoi. On n'a pas fait des sacs d'amiante neutre avec écrit ça donne le cancer, sous-titré, mais parfois t'es bien obligé d'isoler ton faux plafond, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais non. Moi, je dis pas qu'il faut interdire le tabac, je dis juste que quitte à être cynique pour choper de la taxe, autant vendre toutes les drogues, alors. Et je dis pas ça uniquement pour défendre Leïla, mais c'est vrai. Alors tu mets en commerce les autres drogues avec des avertissements, tu vois,
ouais, genre. Chaque fois, faites attention.
Voilà, prendre de la cocaïne donne l'impression que tout ce que tu racontes est passionnant. Ou, sous MDMA, faites quand même attention à pas coucher avec les membres de votre propre famille, enfin des trucs d'usage, quoi. Mais une fois encore, voilà, vous vous en foutez de ce que je raconte. Allez, je fais une bonne émission, les amis.
Merci,
bravo.
Bravo.
La boule originale, sur France.
Je retiens une haleine de vieux divan aussi. Quand même.
Ouais.
Magnifique.
Quand même. Il a tellement raison.
Tout était bon partout. Ah, et c'est vrai, l'hypocrisie de vendre une drogue et pourquoi pas l'autre. Autant tout vendre et prendre l'argent partout où il est. Ou ne rien vendre et
le t-shirt floqué Nike, ouais, c'est pas mal. Enfin, Nike, Adidas,
oui, et les autres marques. Voilà, c'est ça.
J'ai fait trois.
Je pense qu'ils y sont pour beaucoup chacun. La bande originale de PEF, notre invité, qui est un corbeau, je le rappelle, dans Un jour, mon prince, à partir du 11 janvier. On va commencer en 1988. PEF, écoutez.
F-A-R-S, ce n'est pas une farce. Il a M Life de la planète Mars. Fait le sommeil devient un violent poison. Pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance des rues quand vient le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont des génies du genre Léonard Vinci. Et voici aujourd'hui juste un triché. De la ville du sud, il vous a fait 2000 degrés. Les nuggets sont joués comme un tic-tac-toe. Impro et prennent la fuite en zigzag, yo. La terre est paniquée, normal. Commandeur Akhenaton, vaisseau amiral de la stratégie avec de Marseille. MSU de la Marta ordonne d'une vive voix.
Alors vous avez choisi Ayam parce que il parle de la planète Marseille, que Marseille est votre ville, ou parce que vraiment Ayam?
Et soyez oui, honnête, pour soyez les honnêtes. Alors honnête, et puis troisièmement parce que quand ils ont démarré.
Vous n'avez pas répondu.
Écoutez, si, écoutez, ne me coupez pas la parole. Non, pour la... non, mais pour les deux, oui, j'aime beaucoup Ayam et oui, je suis de Marseille. Et puis aussi parce que quand ils ont démarré, on leur avait dit ça va durer 2 ans. C'est...
Ouais,
et ils sont toujours là et là, ils vont faire une tournée. Et bah, moi, je les adore.
Voilà. Ils sont sympas.
Ah ouais, en plus.
Ouais, ouais, et puis intelligent. Alors, le rap, c'est le genre de.
Faut pas exagérer non plus.
Si, j'exagère.
S'ils sont intelligents.
Si. Ouais,
ouais. Enfin, si. Je crois. Une fois.
Le rap, vous êtes tombé dedans par.
Non,
les groupes français.
Non, alors là, on va dire la vérité. Non, moi, je suis funk. Je suis jazz. Le rap, j'aime, mais c'est pas. Non, c'est pas.
Tu disais que c'était de la merde tout à l'heure, Orantin.
Ah oui, j'ai dit ça, oui.
Non,
je suis moins. J'écoute moins de hip-hop, c'est la vérité.
Vous avez rencontré donc votre bande Marina, Foy, Céline, Nicole, Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve et Pascal Vincent, bref, les Robin des Bois qui ne s'appelaient pas comme ça au début, hein, puisque c'était le titre de la pièce qui est devenu...
Oui, nous étions appelés tout simplement la Royal Imperial Green Rabbit Company, voilà.
Tout simplement, pour faire court.
Voilà.
Et c'est Dominique Farrugia qui a eu la bonne idée en voyant la pièce de dire on va les appeler les Robin des Bois, vu que c'était une parodie.
Cherchez pas trop, les gars, de toute façon, on vous appellera
les Robins.
Ouais.
Nous, c'était les nuls.
Voilà.
Vous les Robins. Justement, les Robins débarquent en 99 dans Nulle part ailleurs. Et à ce moment-là, vous écoutiez.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers.
Qu'est-ce qu'elle dit, Leïla? Elle dit c'est
beau ça. C'est beau ça.
Là, je cherche le nom pour le noter.
Alors je vais te donner le nom, c'est Dina Washington.
Dès que j'entends sa voix, je me sens bien. Je sais pas pourquoi. Et j'ai écrit mon premier film, Essaye-moi, en l'écoutant tout le temps. Je commençais tout le temps de mes séances d'écriture par sa voix. Et puis je finissais par Nat King Cole. Et j'avais l'impression que c'était eux qui écrivaient mon film. Enfin, j'étais un peu. J'avais pris des
produits dérivés.
Des
pas qu'un autre. Hein.
Ça, c'est la version originale de What a Difference a Day Makes. Il y a eu un énorme succès disco repris par Esther Phillips. Peut-être que Leïla, tu connais plus cette version, non? Non plus?
Non.
La version en sinusite, elle connaît.
Bah, à ce moment-là, je peux me mettre à chanter, hein, si on y va par là.
On va revenir sur Dina Washington, quand même, qui était beaucoup mieux. Parce que Dina Washington, ce que vous aimez, c'est le côté suave.
Le velours.
Jazzy, ouais.
Je sais pas, c'est sa voix. C'est sa voix, quoi. Je me sens bien avec sa voix. Et puis, évidemment, la musique me parle, quoi. J'adore cette musique aussi, hein.
Vous écrivez donc et vous réalisez Essaye-moi, votre premier long métrage, un film, et je vous l'avais déjà dit à l'époque que j'avais adoré parce qu'il était émouvant, fondé. On sentait aussi qu'il y avait une part autobiographique de beaucoup de vous, en tout cas dans ce film. À propos de la musique et de votre manière de travailler, vous mettez de la musique dans la pièce quand vous écrivez?
Bah, je peux pas.
Et vous écrivez sur ordi, sur papier crayon, comment vous faites?
Bah, j'ai l'impression que je pourrais me priver de beaucoup de choses dans la vie, mais pas de musique, quoi. La musique, c'est... ça m'envoie des ondes, ça change mes humeurs, c'est indispensable, la musique. Vous savez, il y a des jeux là, on dit qu'est-ce que vous emporterez sur une île, quel livre, quel. Moi, ça serait de la musique, je pense.
Et en l'occurrence, celle-ci, la voix de Dinah Washington.
Oui.
Sauf que sur une île déserte. Pour écouter de la musique sans électricité,
mais
c'est
voilà,
pas facile.
C'est ça.
Eh ouais, c'est ça, on y pense pas souvent. Ouais. C'est un peu partie des questions pièges. La rencontre aussi dans ce film forte avec Pierre Richard, Essaye-moi, c'est devenu quoi, un papa du cinéma, deuxième.
Bah, j'ai eu l'honneur qu'il me propose de fêter ses 80 ans à l'Olympia. Je dirais pas il y a combien d'années, non. Mais vous savez, c'est. J'ai eu des idoles qui font ce que je suis aujourd'hui. Bon, il y a aussi ma mère, dont je fête les 80 ans aujourd'hui. Mais tous ces gens nous inspirent. Chaplin, Laurel et Hardy, Mel Brooks. Mais quand on a la chance de rencontrer Pierre Richard, qui m'a évidemment inspiré, dont j'ai vu les films et revues, et qu'on peut travailler avec lui, c'est... quelque chose qui est ancré jusqu'à la fin de notre vie professionnelle.
Votre personnage de maladroit, ouais, qui tombe des échelles et compagnie, c'est le résultat de La Chèvre, c'est le résultat du Grand Blond.
Puis de ses premiers films. Moi, j'étais fan depuis le début. Je pleurais pour aller voir La Carapate, Je suis timide mais je me soigne, tous ces films.
La moutarde de Montonnet.
Oui, voilà. Avec Jane Birkin en haut de la baignoire, c'était incroyable. Quoi.
Jane Birkin dans la baignoire, le bain mousse, dans la caravane. Ça, c'est la scène.
Ça, c'était incroyable. Enfin, quand on peut faire ça au cinéma.
Un érotisme torride.
Ah, quand t'aimes la mousse. Ouais.
En 2010, donc, autre star, autre idole, vous en avez pas parlé tout à l'heure, vous écoutiez. Ouais. Prince, Sign of Time. Turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed her baby cause she couldn't afford to feed it. Now I'm sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's good horse, it's June. Times. C'est quand même bon ça.
Ah ouais.
C'est simple, en plus, il n'y a pas grand-chose en termes d'arrangement de machin. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus, d'ailleurs, c'était sa capacité à jouer tous les instruments, c'était son jeu de danse aussi, parce qu'il avait un côté à James Brown où il dansait et chantait en même temps.
Et puis il y a dans sa rythmique... une manière de faire le funk qui, enfin, moi, j'aime pas danser, quand je danse, il y a personne autour de moi. Ouais, je danse que chez moi, avec mes filles, mais j'ai honte. Mais lui, dès qu'il joue, je me mets à danser. Il envoie des pulsations, des rythmiques qui font que même les plus grands timides, même les gens qui ont honte de leur corps se mettent à danser.
Hypnotique pour le corps.
Ouais.
2010, on parlait tout à l'heure des Monty Python, c'est justement le retour de l'élève qui rend hommage à ses maîtres, c'est-à-dire Spamalot.
Spamalot. Ça, je me suis dit, quand j'ai eu la chance d'adapter Spamalot et que Eric Idle, Terry Jones sont venus, je me suis dit, là, je peux crever maintenant. Ça y est, j'ai atteint ma retraite. Là. C'est le truc inespéré, Spamalot.
De les rencontrer ou de l'adapter?
Non, de l'avoir fait, parce que ça m'a apporté un plaisir que... J'ai toujours préféré être sur une scène devant un public, mais alors là, quand on joue Spamalot, on a tous ses rêves, c'est-à-dire je sais pas danser, je sais pas chanter, je me retrouve avec des danseuses, avec des chanteurs, je prends des cours de chant, on vit fame pendant les répètes.
Oui, mais tout ça autour de l'absurdité, de l'humour des Monty Python.
Oui, bien sûr, ça il fallait que je sois dans ce genre-là, mais c'est surtout que ça apporte un plaisir incroyable de faire tout ça sur scène.
J'aimerais comprendre une chose, parce qu'il y avait eu plusieurs adaptations, ça n'avait pas marché.
Vous êtes au courant de tout.
Expliquez-moi ce qui est passé.
C'est marrant que vous soyez au courant, parce que ça, c'est pas paru dans la presse.
Pour Spamalot.
En fait, quand ils m'ont... Je vais essayer de parler rapidement, parce que c'est un peu long. Quand je me suis mis à adapter...
Trop tard, merci.
C'est horrible de faire ça. Ouais, regarde, il est en train de livrer quelque chose de très intime.
Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, parce que
bien, ça le soulage.
Je suis pas sûr que ça soit très intéressant, en plus, comme anecdote.
Non, mais pour la faire courte, il y a eu une première version qui n'a pas fonctionné.
Ouais, pour la faire courte, j'ai cru que j'étais adaptateur, ça veut dire que je pouvais y faire ce que je voulais. Donc je m'en suis donné à cœur joie, j'ai mis des choses du film qu'il n'y avait pas dans Spamlot. Et puis quand ils ont lu ça aux États-Unis, ils m'ont envoyé les avocats, ils m'ont dit non, vous êtes un translator, hein, il faut juste traduire.
Au texte. Ouais.
Et bon, on peut pas juste traduire, c'est pas possible. Déjà, il y aurait pas de rime. Donc, on s'est expliqué, on s'est mis autour d'un verre et puis ça a donné ce que j'ai fait.
Très bien. Nous allons reparler évidemment de ce film Un jour, mon prince, film de Flavia Coste qui sort le 11 janvier avec Sarah-Jeanne Labrosse, Mylène Saint-Sauveur, Catherine Jacob et Pef qui est notre invité, Pef qui joue le rôle du corbeau. Je trouve amusant de dire. Et nous avons comme invité aujourd'hui
le corbeau.
Et nous allons parler des contes de fées avec Virginie Barsagol. Merci Virginie de venir à notre micro. Bonjour, vous êtes prof de lettres modernes, vous êtes auteur de chroniques littéraires et musicales. Les deux vont souvent ensemble quand on parle des contes de fées sur actusf.com, c'est ça ?
Oui.
Si je dis pas de bêtises. Et d'autres sites internet comme le Hibou avec deux O. En 2009, vous avez coécrit le guide des fées et regards sur la femme avec Audrey Canso. Alors, déjà, la définition d'une fée. Excusez-moi, c'est une fée, c'est juste une fille qui fait de la magie ou plus.
Elle fait de la magie, mais c'est surtout la fée, c'est sa symbolique, ce serait une symbolique du destin, c'est de la fécondité aussi, elle est liée à la notion de fécondité, parce qu'à l'origine la fée, elle vient des déesses du destin, ça date de l'antiquité grecque puis romaine.
Donc c'est plutôt que ce sont les muses.
C'est pas des muses, elle deviendra muse par la suite hein, sous la plume de différents auteurs, mais à la base en fait elle crée le fil de la vie, elles vont même aller jusqu'à le couper.
Comme les moires.
Et ben c'est elle en fait, les moires, c'est les marraines en fait des fées. Voilà, on est dans le chaudron des fées là. Et du coup, elles sont liées au principe de vie, de fécondité, la naissance et la mort. Hein. Donc cette notion de mort aussi, on va la retrouver dans les personnages de fées qui ne sont pas toujours bienveillants, qui ne sont pas toujours positifs, contrairement à l'image qu'on peut en avoir.
Oui, parce qu'on a l'impression que la fée, c'est la gentille, et la sorcière, c'est la méchante.
Oui, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un personnage extrêmement duel, la fée, à la base. Déjà parce qu'à la source, elle est principe de vie et de mort. Donc elle scelle le destin des humains. Mais elle va aussi, dans les histoires, pouvoir intervenir à certains moments pour le modifier, ce destin. C'est ça qui fait que c'est un personnage extrêmement intéressant qui a surtout un rôle très important dans le récit, dans les histoires. Elles font les histoires.
Alors, est-ce qu'on n'est pas dans un domaine qui est tellement vieux que ça ne veut plus rien dire, les histoires de fées ?
Non, pas du tout. Elles traversent en fait toutes les époques, les fées. Au Moyen-Âge, elles sont extrêmement présentes. Il y a des figures de fées très connues. Morgane, Mélusine, qu'on retrouve en écho dans le film. Viviane. Mais elles vont aussi être présentes au XVIe siècle, XVIIe siècle avec Perrault. Ensuite Grimm au XIXe siècle. Et beaucoup au XVIIIe siècle.
Ça, ce sont de nouvelles fées qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire.
Oui, des nouvelles. Et puis...
La plus récente de toutes les fées.
La plus récente...
Clochette.
Clochette, elle arrivait plus tard. Elle arrivait beaucoup plus tard. Mais personne ne l'a faite,
c'est pas grave. Okay. Non, parce qu'ici on ne fait pas ce genre de plaisanterie.
Très bien, très bien.
Clochette,
rechauffée aussi. Très bien, merci.
Clochette, elle arrive au XVIe siècle en fait uniquement à travers la fée Mab chez Shakespeare. C'est la première fée miniature. Et en fait, Disney a gardé cette image de la fée miniature, et c'est elle qu'on a tous en tête, mais en fait, c'est complètement à la marge au départ. Au Moyen-Âge, les fées, elles sont humanisées, ce qui permet de les deviner, parce qu'elles sont rarement nommées fées. Elles apparaissent comme des femmes, par contre, elles sont très très belles. Donc c'est une forme de vision idéalisée de la femme, selon la société du Moyen-Âge.
Et hein. Sachant que les codes de la beauté ne sont pas forcément les mêmes à travers les siècles.
Et bien la fée, elle va suivre ces codes-là, en fonction des époques. Au XVIIIe siècle, la fée, elle ressemble à une précieuse de la cour. D'accord. Parce que ce sont les femmes qui écrivent et ce sont des précieuses qui parlent d'elles-mêmes. Elles parlent de leurs histoires et quand il y a une fée, comme par exemple il y a des fées, elles ont des noms très rigolos, la fée printanière par exemple, la fée lumineuse, ou des fées plus négatives qui ressemblent à des vieilles sorcières. Alors là, c'est les vieilles précieuses qui sont ridiculisées à travers ces fées-là. Donc c'est très drôle, il y a beaucoup d'humour.
C'est international les fées, c'est-à-dire que ce soit en Italie, en Espagne, en France, les pays latins ou les pays anglo-saxons, ce sont les mêmes fées traduit différemment avec les mêmes pouvoirs.
Elle traverse les continents. En Italie, il y a des fées qui sont inspirées des magiciennes de l'Antiquité, la magicienne Circé, par exemple. On va la retrouver en Italie au XVIe siècle. Et ensuite, on va la retrouver en France sous d'autres formes. Donc tout ça, ça voyage, ça circule. Mais il y a vraiment un fond commun. Il y a vraiment un fond commun entre les personnages.
Donc c'est une culture mondiale.
Occidentale.
D'accord.
Avant tout. Après, à l'oral, parce que nous, moi, dans ce livre, on parle de la littérature écrite. Hein. Mais à l'oral.
En Afrique, les griots racontent aussi, j'imagine, des histoires de fées, de sorcières et autres magies.
On retrouve des pendants de la fée, même au Japon aussi. Il y a des schémas communs, des histoires qu'on retrouve, par exemple, l'histoire de Cendrillon, à l'oral, au Japon. On retrouve exactement le même schéma narratif, en gros, les mêmes étapes de l'histoire.
Et pourquoi ce sont les femmes qui ont des pouvoirs magiques ?
Alors, grande question.
Dans les histoires, c'est quand même souvent les femmes qui ont ces pouvoirs-là.
Ouais, tu as vu ta Merlin l'Enchanteur aussi, on parlait
de
Viviane.
Ouais, mais t'as des grands mages, mais il n'y en a pas.
Alors, justement, Merlin.
Sans Viviane n'est plus Merlin, c'est ça ?
C'est quand même elle qui
le power.
Exactement. Elle lui vole ses enseignements. Elle les retourne contre lui. Viviane, c'est une fée duelle. C'est à la fois la bonne dame du lac, la marraine, rassurante, qui élève l'enfant.
Et la méchante.
Et la méchante qui va jusqu'à enfermer Merlin et lui voler ses pouvoirs. Donc on est en plein dans cette dualité.
Alors quel est l'intérêt psychanalytique d'avoir les fées présentes dans les contes pour enfants ? Alors, pour enfants ou pour adultes ?
Ouais, pour enfants ou pour adultes.
Est-ce qu'il y a un âge pour...
Non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, sur le XVIIIe siècle, parce qu'au XVIIIe siècle, les fées, elles ne sont pas juste rigolotes et représentent pas juste les précieuses. Au XVIIIe siècle, les contes sont clairement pour les adultes. Hein. C'est clairement pour les adultes. Ce sont même des contes licencieux, pour la plupart, jusqu'à pornographiques pour certains.
Ah bah bravo.
Il y en a plein.
Page, j'ai pas vu.
Oh bah plein de pages.
Toutes les pages. Il va tout lire.
Quasiment. Et oui, non, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples.
Il y a la fellation.
Voilà. On y est presque au XVIIIe siècle. On y est presque.
Regardez.
Il y a des fées initiatrices comme la fée lumineuse qui fait l'éducation d'un jeune homme. Mais c'est très clair, hein, c'est explicite. Hein,
et le déniaise.
Ah ben complètement. Et d'accord. Puis elle lui explique comment il faut faire.
D'un coup de baguette magique. Donc voilà. quelle est l'utilité alors presque sociale ou psychanalytique ?
Alors psychanalytique. Pour parler de ça, je voudrais parler d'un metteur en scène qui s'appelle David Bobet et qui.
Génial. Metteur en scène David Bobet qui est à Rouen, qui est à la tête du CND de Rouen.
Et David Bobet, il a en 2007, il a donc mis en scène un texte de Renan Chesneau. Je pense que je ne me trompe pas. Qui s'appelle Les Fées. Mmh. Et alors Les Fées, il y a deux personnages de fées sur scène qui sont les accoucheuses de la conscience du héros. On est au 21e siècle, le héros est complètement dépressif, il ne sait plus comment faire face à ce monde, à notre monde. Et pour répondre à ça, les fées sont là pour éveiller sa conscience. Le faire se réveiller, penser autrement. Parce que c'est ça la fée. La fée, c'est celle qui permet... certes, d'éventuellement réenchanter le monde en rêvant, mais surtout de proposer une alternative, de proposer une autre façon de penser jusqu'à peut-être arriver à agir sur le monde, agir autrement sur le monde, pour sortir d'une impasse.
On est dans un monde extrêmement... matérialiste, matériel, preuve, on est en train de percer le plafond en ce moment.
Il y a une fée qui est coincée quelque part là, qui essaie de sortir.
C'est la fée clochette, elle a fait
quelque chose. Comment revenir à des choses comme ça, impalpables et.
C'est un besoin, je pense que justement, plus le monde est difficile, plus il y a un contexte violent, plus on a un besoin de merveilleux. Ça se voit à toutes les époques. La fée et le merveilleux en général. Je pense à Seconde Guerre mondiale, André Breton, quand même très connu, il appelle dans ses écrits, alors qu'il est en exil, il appelle au retour de la fée.
Nadja, c'est une sorte de fée.
Elle ressemble énormément à la fée Mélusine. Ouais. Mélusine a énormément influencé André Breton pour Nadja. Et dans Arcane 17,
il faut lire
par
Nadja,
la suite,
c'est
magnifique.
Dès l'instant où une femme n'existe pas et où elle a des pouvoirs, elle est une fée ? Que ce soit en bien ou en mal.
Pas forcément, mais la figure de la fée, elle est très large, effectivement.
C'est pour comprendre.
C'est vrai.
Le guide des fées, regard sur la femme, avec un dessin extrêmement érotique, dirons-nous. Mm-hmm. Virginie Barsagol co-signe avec Audrey Canso ce guide. Et il y a l'amour, selon les faits, le petit manuel de la séduction à l'usage des femmes. Alors, expliquez-moi exactement cet ouvrage, parce que l'amour, selon les faits, c'est là où tout se passe, justement.
Bah, c'est une anthologie, en fait. Déjà, pour le présenter, c'est une anthologie. Donc, c'est la suite du guide des faits. On s'est rendu compte que la thématique, justement, amoureuse, était tellement centrale dans tous les textes.
Hommes,
mais oui,
les
faits, c'est des séductrices, sont des faits amantes. Voilà. Et même quand elles sont faits marraines, souvent, elles deviennent amantes. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment...
Comme dans Peau d'âne.
Mais est-ce que tout ça, par rapport à la condition féminine, est-ce que... voilà, et le besoin que l'on a de parité, d'égalité, de respect de la femme, vous pensez que ça aide de dire que les faits sont là juste pour séduire les hommes et
alors non, parce
leur
que,
donner
en fait,
un rôle oui.
Il faut rentrer dans les textes.
Bien, mais...
dans
oui.
les textes. Ouais. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, justement, elles sont, y a des faits qui sont contestatrices. Et, voire même révolutionnaire, c'est-à-dire que les faits elles viennent corriger le monde, par exemple, elles luttent contre les mariages arrangés pour libérer les héroïnes ou les héros d'ailleurs des impasses dans lesquelles ils se trouvent.
D'accord.
Coincés par la société.
Elles sont hyper modernes.
Elles sont extrêmement modernes et il y a même des faits qui proposent des révolutions et qui donnent les outils aux mortels pour récupérer un royaume, pour prendre le pouvoir. Voilà.
De l'utilité des faits donc dans notre société, quel que soit le moment.
Vous en savez autant sur les faits ?
Non, je me délecte.
Vous en avez appris des tonnes.
Ah,
hein,
oui.
Merci mille fois en tout cas d'avoir pris le temps de venir à ce micro, Virginie Barsagol. Daniel Morin, on voit bien que le mythe du prince charmant existe toujours finalement. Ça peut se comprendre, on a le droit de rêver au prince charmant, aux princesses.
Oh mais fées. Quel génie, bordel de Dieu. Pardon, je m'emporte, mais parfois votre inspiration touche au sublime et pour me calmer, il faut que je gueule, c'est comme ça. Heureusement que vous êtes là, hein, monsieur Guy, heureusement. Même si aujourd'hui, soyons honnêtes, votre absence n'aurait dérangé personne. Non, monsieur Guy, il faut en finir avec le mythe du prince charmant. Hier soir, par exemple, c'était l'anniversaire de ma femme. Je l'invite au Buffalo Grill, port de Montreuil. Salade d'accueil, mousse au chocolat à volonté, et au moment de payer, je lui ai tendu l'addition. Voilà ce qu'elle me sort. Ah, heureusement, je croyais plus au prince charmant. La conne. Heureusement, tu sais pas non plus que je me tape une des serveuses, sinon qu'est-ce que tu dirais ? Me disais-je intérieurement, le sourire en coin et l'œil rêvé sur la croupe de ma serveuse nymphomane. On est au 21e siècle, merde, je croyais que les nanas en avaient marre de notre système patriarcal basé sur des réflexes aussi protectionnistes que phallocrates qui voudraient que l'homme assoie sa supériorité sur la femme en lui faisant comprendre que c'est lui qui commande tout ça parce que c'est lui qui paye. C'est dans un geste hautement féministe que je lui filais l'addition à cette bécasse. Et pourtant, croyez-moi, j'ai eu des gestes nobles dans ma vie de lover. Des gestes qui m'ont propulsé au sommet de la prince charmanterie. Je me souviens d'une fois, toujours pour l'anniversaire de ma femme. Eh ben, avant de l'honorer, j'avais pris une douche.
Oh, c'est classe.
Ah, ben oui, oui, oui. Oui, mademoiselle Boudadi, ça vous embouche un, quoi. Ça a pas dû vous arriver souvent, hein, l'Amazone du Djebel.
Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive ?
Vous en pensez quoi, maréchal, sérieusement ?
Les douches, c'est un truc de tapette. Les hommes, les vrais, ça sent fort, très fort. C'est à l'odeur qu'on peut mesurer la virilité d'un gars. Quand je pense à tous ceux qui se mettent du déodorant ou de la cologne comme des danseuses de mauvaise vie, ça me rend dingue. J'ai envie de les passer à la jeune pour leur apprendre la vraie vie.
Et voilà, bien dit, maréchal. Voilà, finalement, c'est assez simple à comprendre, monsieur Guy. N'empêche qu'une fois encore, mon pauvre, vous avez dit...
N'importe quoi.
Merci, Daniel.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Et en voici du Prince, justement, pour vous faire plaisir, mon cher Pef, avec
Merci.
When Doves Cry. Vous êtes sur Inter, c'est la bande originale de votre vendredi, avec Pef qui est notre invité.
Yeah, yeah.
Covers me. Can you?
Prince avec One Dove's Cry. Et à propos de Prince, évidemment, on a un prince. Voilà, il fallait bien faire l'enchaînement avec PF qui est là, puisque la question est de savoir est-ce qu'ils vont réussir à trouver le prince charmant avant les 100 ans et le jour J. Si la Belle au Bois Dormant n'est pas embrassée par le prince charmant, l'élu de son cœur, et la magie et donc le sort ne sera pas levé. Et là, tous les contes de fées, tous les personnages de contes de fées disparaîtraient, ce qui serait une catastrophe.
Une horreur.
C'est ça un peu le pitch de Un jour mon prince.
Ouais.
Ce film qui sort le 11 janvier prochain avec PF qui est notre invité jusqu'à midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouroud et
Bonjour à tous.
Yes, mon Queen. Le corbeau, exactement, PF. Le corbeau dans Un jour, mon prince, le film de Flavia Coste, le premier film de et avec. Elle l'a écrit, elle l'a réalisé, ouais. Elle a joué.
Et
elle a l'impression qu'elle s'est battue pour monter ce projet.
Elle s'est battue, mais calmement. C'était c'était très amusant de se faire diriger par une réalisatrice calme, alors que c'était son premier film, qu'elle avait tout pour flipper.
Et de débarquer dans ce monde donc des princes, des fées, d'être déguisée en corbeau, on va relativiser tout ça, reste extrêmement contemporain dans le traitement. Il n'y a pas d'effets spéciaux avec des manches à balai qui volent dans le
ciel. Il y a quand même des effets.
Bah,
parce qu'il y a des coups de baguette magique.
Elle fait scintiller la Tour Eiffel, oui, je te fais remarquer.
C'est vrai. Elle la réduit, elle vole la Tour Eiffel aussi. Non, mais ça, c'est le. Je crois que c'est Sarah Jeanne Labrosse qui est la plus folle dingue dans le film, c'est Blondine. Hein.
Oui. Et puis l'autre, c'est la romantique.
Mélusine, jouée par Mylène Saint-Sauveur, qui elle veut rester une fée, alors que Blondine est prête à devenir maman, donc à ne plus être fée.
Ouais.
C'est le danger que ça représente. Le plaisir que vous avez eu à jouer là-dedans, d'abord, c'est de aussi tendre la main à de jeunes réalisatrices et à de nouveaux projets.
Bah, c'est vrai que de se dire on est dans son premier film, ça fait quelque chose. C'est certain. Maintenant, je cache pas mon plaisir à me déguiser en corbeau tous les matins. C'était génial, j'étais trop content quoi. Et puis avec Catherine Jacob, et nous on était dans le monde du conte. Enfin, c'est un peu pour ça aussi au départ qu'on fait ce métier, pour se déguiser. Ça m'a rappelé mes envies de gosse quoi, de quand j'avais 5 ans et que je voulais déjà être clown. Et c'est ça en fait que ça m'a rappelé. Quand elle m'a fait la proposition, je me suis tout de suite rappelé de pourquoi je voulais faire ce métier depuis le départ, et j'ai pas regretté.
On est dans un conte moderne, le conte des fées. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Est-ce qu'il y a une morale au film? Est-ce que ça veut dire le prince charmant n'existe pas, ou on va pas dévoiler la fin, mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Est-ce que...
Je pense que, enfin, la réalisatrice, si elle était là, mais là, elle est en tournée avec le film. Elle nous trouverait la morale. Moi, j'ai l'impression qu'elle a surtout fait une comédie qui est très drôle, et elle l'a écrite à un moment où je crois qu'elle était désespérée, oui, de se dire que, en fait, ça n'existait pas le prince charmant. Et c'est peut-être grâce à ça.
Vous voulez dire qu'elle était un peu seule?
Oui, j'ai eu l'impression qu'en tout cas, elle avait écrit à cause de ce qui lui était arrivé.
Donc maintenant, elle ferait plus le film, quoi.
Voilà. Et c'est pour ça que le film est drôle, c'est parce que justement je pense que c'est toujours en écrivant, il faut partir d'un sujet dramatique pour faire une comédie.
Un jour, mon prince, au cinéma, donc à partir du 11 janvier, voici non pas un prince mais le sorcier des ondes, Daniel Morin.
Pas mal. Ah, mes pauvres amis, quelle période troublée quand même. Ça me fait beaucoup de peine, énormément de peine, de savoir qu'à titre préventif, on va abattre près d'un million de canards à cause de la grippe aviaire.
On est devenu des lopettes.
Rebonjour, maréchal, vous allez bien?
Négatif. Moi aussi, ça me fout en rogne de savoir qu'on va buter un million de canards.
Ah, vous aussi, vous êtes un défenseur des animaux?
Négatif, j'aime pas les bêtes, j'aime les bouffer, c'est pas pareil.
Il paraît que c'est à titre préventif pour éviter une épidémie.
On est devenu une civilisation de couilles molles, Morin.
Enfin, vous exagérez quand même.
Négatif, j'exagère rien du tout. Ceux qui nous gouvernent sont tous des lopettes.
Ah, de votre temps, c'était différent, hein, c'est
ah,
ça.
Ah, mais arrêtez avec votre petit ton méprisant. De votre temps, nanana. De mon temps, on avait dans le froc, ça c'est sûr.
Bah, donnez-moi un exemple de fanfaronner.
Ah, dites donc. Quoi? Je fanfaronne si je veux. C'est ça le bonheur d'être en CDI, d'être invirable.
Oui, on sait que vous êtes en CDI. Donnez-nous un exemple de courage face à une menace de nourriture.
C'était en 1953, dans la jungle du Tonkin. Oh, Tonkin.
Poursuivez, je vous en supplie. Allez-y.
Perdu dans la moiteur de ce pays sauvage, mes hommes et moi étions cachés pour échapper à ces... Ah, s'il vous plaît. Laissez-moi évoquer, mais...
Échapper à qui ?
Pour échapper à ces salauds de Viet qui voulaient nous découper en rondelles. Au bout de 3 semaines à bouffer du kiwi et de la papaye, on n'en pouvait plus. On rêvait tous d'un bon steak. Un steak bien saignant pour nous régaler et reprendre des forces.
Alors ?
Alors, le caporal Heinrich s'est sacrifié. Heinrich, un légionnaire autrichien, un héros. Il avait participé aux 2 guerres. 65 ans. Dégoré 36 fois, blessé 8. Un œil de verre et une couille en bois.
Wow.
Pour pas qu'on gâche, il nous a dit en allemand d'ailleurs, les gars, allez-y, bouffez-moi, Essenzimich. Mais attention, me bouffez pas d'un seul coup, gardez-en sous le coude, toujours en allemand. Bouffez-moi au fur et à mesure en me gardant vivant. La première semaine, on a mangé la jambe droite. J'avais cautérisé la plaie avec de la bave. Je sais. Rien que d'y repenser, ça me bouleverse. J'ai envie de chialer, c'est vrai. On a tenu 12 semaines en le boulottant petit à petit, le Heinrich. Pourtant, dès la 3e semaine, il nous avait prévenus, nous disant « Faites-moi bien cuire, les mecs, j'ai la lèpre. » Eh bien, ça ne nous a pas empêché de le boulotter, l'Autrichien. On n'avait pas peur d'attraper un petit microbe, nous.
Quelle histoire de dingue.
Le dernier jour, on était sauvés, on avait regagné nos bases, il ne restait plus que le pied droit de Heinrich. Un pied tellement pourri par la lèpre qu'il partait en lambeaux.
Oh, j'imagine que pour rendre hommage au caporal Heinrich, vous avez enterré son pied.
Négatif. On l'a bouffé son pied pourri.
Oh,
on l'a bouffé par respect.
Mais vous l'avez mangé comment s'il partait en lambeaux ?
On a fait des chips.
Ah, c'est beau et ça a l'air bien. Merci Maréchal, bon week-end.
Quelle horreur.
Bon appétit.
Guten Appetit.
Ouais, c'est ça, Essenzimich. Un jour, mon prince, ça c'est l'actualité du 11 janvier pour vous, Pef, mais à venir, il y a, vous en aviez déjà parlé à ce micro d'ailleurs, Gaston. Gaston Lagaffe.
Eh oui, je suis en plein dedans.
C'est un projet de combien de temps d'ailleurs ? Vous le portez en vous depuis combien d'années ?
Bah, ça a démarré il y a presque 3 ans avec Romain Rochman, mon producteur. Et puis là, je l'écris depuis bientôt 2 ans. J'ai terminé mon casting, je suis en prépa et on tourne mars, avril, mai dans le sud de la France, à Martigues.
Très bien. Et on peut annoncer dans le casting notre camarade de jeu.
Bah oui, puisqu'elle l'a dit.
Alison Wheeler.
Voilà. J'ai pas encore le droit de dire le casting, mais oui, il y a Alison que j'adore.
Elle n'a pas dit Alison. L'antenne, elle l'a dit entre
et
lui.
Et puis c'est moi qui l'ai machine... deviné.
Bon ben voilà, ben voilà.
Elle a dit à la machine à café.
Non, en fait, au resto, elle était bourrée, on a réussi à la faire parler.
Il n'est pas toujours bon de dire la vérité, tu sais.
Mais c'est pas vrai, en plus, la pauvre, non, vous pouvez pas dire ça. Là.
Ça sera votre 5e long métrage.
Eh oui.
C'est incroyable, non mais c'est genre,
et ça
c'est...
sera mon ça sera le
film dernier.
Oui, mais oui, j'ai l'impression, bah en tout cas mon dernier film burlesque, c'est, j'ai l'impression que c'est le film où je vais faire le plus de gags grâce à Franquin évidemment.
Mm-hmm. Et alors vous avez choisi le titre, est-ce que ça sera Gaston ou Gaston Lagaffe?
Bah très bonne question, je n'en sais rien. Pour l'instant, je l'ai appelé Gaston. Et je ne sais pas comment on va décider ça avec...
Parce que c'est quand même... de point de vue fan de Gaston Lagaffe, si je vois qu'il y a un film qui s'appelle Gaston, je me dis, c'est un film qui s'appelle Gaston, point, je ne fais pas gaffe. C'est pas fait exprès, pardon.
Non, mais peut-être
mais
qu'il y aura...
Alors que Gaston Lagaffe, c'est une marque, quoi.
Oui, mais
c'est,
il y aura peut-être une baseline. Il y aura peut-être Gaston...
L'as de Lagaffe.
Voilà, je ne sais pas, un truc
c'est
comme
pas mal, ça.
Ça.
Ouais, bah, il valait mieux pas.
Après, il y a une question de droit de... aussi.
Non, parce que je pense que ça a été réglé, j'espère.
Bah, oui. j'espère qu'il a le droit.
Non, mais
j'espère,
non, mais
oui, j'espère que j'ai le droit, parce que quand ça fait 2 ans que j'écris, ça serait con pour moi que sur la ligne de départ...
C'est vrai qu'il faut vérifier quand même.
Je ne dis pas ça, mais c'est par rapport au titre. Peut-être qu'il y a une clause supplémentaire qui fait qu'on ne peut pas utiliser le titre tel quel.
Écoutez, je demande à Maître Choukroun qui est là. En tant qu'avocat de Pierre-François Martin, je peux vous dire qu'il choisira son titre.
Maître Choukroun.
En accord.
Le 4 octobre prochain, on a le temps, hein, c'est à la fin de l'année, vous serez à l'affiche du film L'un dans l'autre, de Bruno Chiche aux côtés de Louise Bourgoin et Stéphane de Groot.
Ah ouais, on s'est éclaté. Stéphane, c'est mon nouveau copain.
Ça y est.
Ah ouais, il est génial, ce type, il est génial. Mais on nous a fait faire des scènes vraiment pas amusantes. Hein. On s'est retrouvés tous les deux cul nus dans un sauna. On était dégoûtés.
Enfin, c'est pas la première fois que vous êtes cul nus.
Oui, mais bon, avec Stéphane, j'aurais préféré que ça soit avec Alison, par exemple.
Ou Louise Bourgoin. Bah,
ouais. Lui, pareil. Hein. Mais avant, en juin,
il y a mon poussin.
Oui, mon poussin avec Isabelle Nanty. Ah.
Film voilà, de Frédéric Forestier. Et là, vous faites quoi dans le film ?
Dans mon poussin ?
Ouais.
On a un couple.
Alors, dans mon poussin, dans le film qui va s'appeler Mon poussin.
Voilà.
Un corbeau.
On a un couple, parent de Thomas Oliveres, que j'adore. Ouais. Voilà, qui vient de se faire plaquer et qui veut se mettre fin à ses jours. Et voilà, on lui dresse un programme de désintoxication à son ex et ça se passe très très mal. Du coup,
c'est très drôle.
Oui.
Évidemment, parce qu'il faut toujours des situations tragiques pour faire rire.
C'est ça.
C'est le principe. Mon poussin, ça sera le 28 juin prochain. On attend d'en reparler. Pour l'instant, le 11 janvier. Au janvier, il y a un jour, mon prince. Je pense qu'on sera tous morts à ce moment-là. Je pense que c'est la meilleure vanne de la journée. Le mec qui démarre janvier au top du moral.
Je vous ai prévenu.
Voici le brouillon de culture de Neila Kadjapodedi.
François Martin Laval, je vous sors de la promo, c'est vous, à vous tout seul, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Vous avez un gobelet aussi, si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec cette bouteille.
Putain.
Oui, la bouteille,
pardon,
c'est compliqué.
On coupera le
petit mot.
On garde tout, contre.
Et je vous propose d'écouter un son pour vous.
C'est moi, mais je crois que j'ai un ticket.
Oh.
$50. Pardon. C'est une pute, $50, ça couche tout de suite. Alors là, mon vieux, vous vous foutez complètement le doigt dans l'œil. D'abord, je sais reconnaître une professionnelle. Et ensuite, je crois savoir quand je ne laisse pas une femme indifférente.
Vous avez la voix et vous lui dites simplement 50. Et vous vous retrouvez tous les deux dans votre chambre dans 3 minutes.
Vous m'étonnez.
Essayez. C'est moi qui vous les donne si ça ne marche pas.
Qu'est-ce que j'adore,
Pierre Richard, Depardieu, la chèvre.
C'est une de mes scènes préférées.
Le Paris, et vous la racontez très bien, cette scène, parce que il y a une anecdote sur le tournage de cette scène que Pierre Richard a
Pierre Richard m'a raconté que. En fait, Francis Weber, vous savez qu'il est très exigeant, hein, c'est un secret pour plus personne, et ça lui plaisait pas du tout comment la figurante giflait Pierre Richard. Il trouvait qu'elle le giflait pas assez fort, et donc à la 20e prise, il y a Pierre Richard qui commence à en avoir plein le derrière, qui a dit à la figurante,
la joue surtout, oui.
Voilà, il lui a dit, écoutez, envoyez-moi vraiment une bonne baffe qu'on en finisse, mais très forte, quoi, parce que sinon on va y passer la journée et moi je commence à avoir mal. Et donc ils font une dernière prise, c'est celle qui est dans le film, et la figurante lui décalque la gueule, lui déglingue la tronche. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, elle casse sa montre, on voit la montre tomber par terre, on l'entend. Et surtout, il y a Depardieu, c'est un plan séquence, enfin en tout cas ce passage-là est un plan séquence, il y a Depardieu qui est de dos et qui rigole, on voit son corps qui se secoue, et de le savoir, ça me fait encore plus rire maintenant.
En tout cas, moi j'ai hâte maintenant de le revoir.
Moi j'ai revu l'extrait, et c'est vrai qu'on voit la grosse carcasse de Depardieu qui s'agite un petit peu, et tu te dis, c'était pas prévu. On poursuit avec un autre son pour vous, Pef.
Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui rafraîchit les idées au programme de la mode, de la cuisine, de la déco, du voyage, des tendances pour un 26 minutes très très lifestyle. Et notre première émission de la rentrée, nous avons choisi de la dédier à nos chères têtes blondes. Et quoi de plus normal que d'inviter un grand enfant qui nous fait beaucoup rire, Pierre-François Martin Laval, alias Pef.
C'est un extrait d'Avis de Tendance, présenté par Sandrine Quétier, dont vous étiez l'invitée. J'aurais pas pensé à vous comme expert mode, déco, lifestyle.
Non,
je me demandais si c'était une parodie ou si c'était une vraie émission.
J'espère que vous n'allez pas passer la suite, je déteste m'entendre.
Ah, c'est vrai ?
Ah ouais, non, vous allez passer la suite là ?
Je sais pas.
On écoute.
Qu'est-ce que vous...
Tout de suite la suite.
En fait, c'était la promo.
En fait, c'est quoi la question ?
Ben justement, je me dis, il faut tout faire en promo, en fait. Il faut tout faire en promo. Est-ce qu'on c'est hyper contraignant?
Oui, il faut tout faire là juste après vous. J'ai Marine Le Pen qui m'interview
sur Radio Courtoisie.
Voilà.
Quelle bonne radio.
Non, mais c'est, j'imagine que c'est un peu délicat. Il faut se prêter au jeu et avec plus ou moins de bonheur.
Oui, après on a le droit aussi de refuser. Voilà. Moi, c'est pas pour flatter, mais j'adore faire votre émission. Nagui le sait que je l'aime beaucoup. Il y a des émissions où on s'amuse et puis c'est vrai qu'il y a des émissions où on y va un petit peu à reculons.
Seulement ça pouvait être réciproque, c'est dommage.
C'est méchant, c'est pas vrai.
Mais c'est vrai qu'en plus, à la radio, on se sent vachement mieux parce qu'il n'y a pas toutes ces caméras. Enfin, bien que maintenant, vous.
Elles sont cachées. Là, t'es filmé. Hein.
Voilà. Ouais. Mais bon, il y a des émissions que moi, je refuse de faire, ça, c'est sûr.
Plus du tout parce que l'accueil.
Non, ou la personne.
Ouais.
Voilà. Il y en a une que j'ai toujours refusé de faire. Bah maintenant il est en prison le mec. Enfin non, il est pas en prison. Non, pardon, coupé.
Non, on comprend rien. Non mais c'est intéressant parce que on se rend pas compte de la manière dont vous choisissez l'exposition ou les rediffusions, parce qu'après vous pouvez débarquer dans une émission, on va vous demander de remonter sur une échelle et de tomber parce que les gens vont tellement vous
flatter avec les rebats. Ça j'aime bien hein, si on me demande de faire ça.
Non mais j'entends. Et après on ne va retenir que ça. Et ça peut être réducteur. Il peut y avoir des séquences plutôt gênantes où vous êtes autour d'une table sans trop savoir comment vous sortir d'une situation.
Mais je trouve qu'en France, on n'est pas très
fort. Comment choisir ?
On n'est pas très fort pour faire la promotion en France. Moi, le premier, hein, je me mets dedans. Aux États-Unis, ils sont vraiment dans l'univers du film qu'ils proposent. Quoi.
Il faut rappeler que tout est écrit dans les talks aux États-Unis quand ils font de la promotion.
Je trouve ça génial parce que je trouve ça généreux. C'est généreux pour le spectateur. Bah là, vous avez tout écrit, c'est généreux,
oui,
c'est
mais
préparé.
On n'a pas écrit.
Je regrette. Non, parce que je trouve que les artistes, on devrait préparer.
Ou être conseillé, coaché.
Faire un vrai show, oui. Oui.
Vous n'êtes pas accompagné sur
la
com.
Non, mais on
n'a
pas les mêmes moyens. Et puis en France, on fait ce métier un peu.
Comme des branleurs.
De façon
amateur. Mais c'est pas ça, c'est que là-bas, aux États-Unis, c'est un vrai métier. Ici, on a honte de dire qu'on est comédien.
C'est un business. Enfin, Saturday Night Live, il faut rappeler que le budget moyen d'une émission, est de 3 millions de dollars par semaine et qu'il y a 30 auteurs qui balancent des vannes et qui écrivent des vannes proposées aux invités. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, l'invité ne sort que grandi parce qu'il a été drôle, il a été original, il avait 100 heures réparties, il y a des prompteurs dans tous les sens. On n'est pas dans le naturel. En France, on aime le naturel et on.
Mais quand le naturel est chiant, on s'en passe, quoi.
Est-ce qu'il y a des comédiens dont vous avez connaissance qui préparent les rendez-vous comme des stars américaines? J'ai l'impression qu'il y a un jeune comédien comme Pierre Ninet, par exemple, je le trouve hyper préparé.
Oui. Pierre Ninet, ça fait plaisir, c'est l'avenir. Oui, mais Pierre Ninet, c'est un artiste, c'est pas un acteur.
Et qui a un sens de
comme Alison, on en parlait. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec Alison et que je choisis souvent dans mes films des artistes complets. Pas juste des acteurs, des gens qui se mettent en scène, qui écrivent la musique, des petits Chaplin, quoi. Pierre Ninet s'en est un, et alors ça, c'est les gens que j'admire le plus. Bah, Pierre Richard, voilà, qui écrivait, qui se mettait en scène. Puis surtout, moi, je préfère les gens qui viennent de la scène. En général, je caste plutôt ces gens-là.
Enfin, pardon, tous les exemples que vous donnez sont des exemples de personnes qui sont justement.
Alors, Alison ne vient pas de la scène.
Justement, capable d'improviser et de ne pas avoir besoin d'avoir un texte écrit, que ce soit Pierre Ninet ou Pierre Richard.
Écrit, mais tu parles. Non, mais tu parles, c'est des menteurs. Ouais. Ils font croire. Ouais. Nous, les Robin des Bois, on pensait qu'on improvisait, mais pas du tout. Ouais. On écrit. Après, l'art. Le talent, c'est de faire croire que.
Oui, les chroniques d'Alison sont hyper travaillées, c'est vraiment à la virgule près.
Mais elle a deux nègres.
J'espère qu'elle ne nous écoute pas, mais moi je trouve qu'elle est formidable.
Et je finis par un petit cadeau.
Je ne sais pas de qui vous parlez, donc je ne vois pas.
Je finis par un petit cadeau, puisque vous allez adapter Gaston, que c'est de la bande dessinée. Gaston Lagaffe. Je vous offre le guide du moutard, c'est Jules. Tout pour survivre à 9 mois de grossesse, c'est aux éditions Glénat. C'est lui qui a écrit notamment Silex and the City.
Et qui a adapté Lucky Luke de manière formidable.
Merci, Pat.
Jules, il parle chinois.
Pour une fois qu'il y a un truc écrit dans l'émission.
Et donc, je disais que justement, Jules s'était collé au dernier Lucky Luke et qu'il, vraisemblablement.
Je l'ai déjà dit.
Tais-toi, Albert. Et vraisemblablement, il va se coller avec Daniel Thompson à l'écriture de.
Se coller avec Daniel.
Avec Daniel Thompson à l'écriture de la suite de Rabbi Jacob.
Non.
Ah mais oui, j'en ai entendu parler.
Ça
Rabbi
vaut le coup
Jacqueline.
De m'écouter jusqu'au bout. Voilà.
Mais le
c'est Rabbi Jacqueline.
Ce sera une rabbin. Non, c'est pas une boutade.
Ça sera rabbine.
On peut dévoiler le truc.
Bon courage à la personne qui va succéder à Louis de Funès.
Sac rabbine. Ok, très bien. Ok, ça arrivera.
En tout cas, c'était une femme rabbin. Un petit cadeau, Pef.
Voilà. Bien aimable à vous. Voici William Zidlin.
J'espère qu'il
n'écoute pas. C'est lui qui a fait la voix de Ratatouille, non?
Anybody gonna move?
Is anybody gonna move? Stick around. baby, don't leave too soon. 'Cause you can stay with me for a couple more moons. Concentrating, dilated, pupils turn green when he looks upon me and my white guitar. He said, Bill Dylan, you should drive off of a cliff in your car. When am I gonna find the time to breathe? Those silly screeching sirens always searching for me. They wanna lock me up because I borrowed a car. It gets my blood boiling like a bucket of tar. Isn't anybody gonna move? Isn't anybody gonna move? Well, stick around, baby, don't leave too soon. You can stay with me for a couple more moons. Isn't anybody gonna move? I lost my soul for an hour or two. It's hard to kiss the girl when she's always crying.
William Z. Villain avec Eddie Marley Gallimore.
Ah bah ça, j'écoute pas, par exemple.
Ah bah voilà, dommage, c'était bien.
Ouais, t'as tort. Je suis pas ouvert à tout, en fait.
Voici les excuses que nous présente Daniel Morin.
Bien sûr, désolé en premier pour Leïla. On a une dizaine d'officiers nazis qui t'attendent apparemment pour te convertir au prince charmant version Tyrol. On met de là à la cantine, en même temps, c'est généreux. Voilà, désolé pour les fans de rap qui se sont sentis insultés par la vision courageuse mais réductrice que PEF a des rappeurs. Je le cite, ces abrutis qui font de la merde, comme vous disiez à la pause. C'est vrai, PEF, faut pas dire des saloperies comme ça.
Faut pas stigmatiser, non.
Non, mais en même temps, c'est pas faux non plus. Désolé pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui ont découvert que les fées qui avaient bercé leur enfance n'étaient que des boules de vis, des traînées, des tentatrices, des actrices de boules. En même temps, c'est pas con.
Ça peut donner envie de retomber dans les contes de fées, tu veux
absolument
dire.
Absolument.
PEF, notre invité est au cinéma la semaine prochaine, le 11 janvier, donc mercredi, avec Catherine Jacob, Mylène Saint-Sauveur, Sarah-Jeanne Labrosse, dans un film de Flavia Coste qui s'appelle Un jour, mon prince. Et j'ai envie de dire merci d'être venu, en tout cas, PEF, aujourd'hui.
Écoutez, j'avais rien d'autre à faire.
Bonne route. Et, bah, c'est vrai que quand c'est pas écrit, vous êtes moins bien. Et revenons avec revenez s'il vous plaît avec Gaston Lagaffe, on serait ravis d'en parler dans cette émission en tout cas. Lundi c'est Édouard Baird et Audrey Tautou qui seront nos invités, mais je te le confirme.
C'est génial.
Et ce sont maintenant les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Formidable. Bonne journée, bonne matinée, bon week-end sur Inter.
Merci Nagui, merci la bande, à lundi.